Donc, la littérature dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment une littérature jeunesse contemporaine, donc après 1980. Sa particularité, en tout cas, la littérature jeunesse québécoise après les années 80, c'est qu'elle devient une littérature dite destinée. C'est-à-dire que la seule chose qui réunit cet ensemble-là de littérature jeunesse, c'est le public auquel on le destine. Donc, au lieu d'être un genre qui serait défini par ses caractéristiques internes, c'est vraiment tout l'ensemble de la littérature destinée à la jeunesse, qui est déjà un gros terme. Donc, ça va de l'album « Tout le monde fait caca » à les recueils sur la première fois pour les adolescents. On est vraiment dans quelque chose de super diversifié. Par contre, quand on va dans la littérature pour les 10 ans et plus, surtout la littérature ado, la chose qui devient le moteur là, de cette sphère de création-là, qui est quand même une sphère marketing là, comparativement à la littérature générale, c'est l'identification. Donc, on va beaucoup travailler dans l'écriture, mais aussi dans la distribution de la littérature jeunesse, l'identification des lecteurs, des lectrices. C'est-à-dire que le personnage en soi va devenir super important et va devenir le vecteur de l'appartenance du jeune lecteur, va vraiment être son ancrage à la littérature. Parce qu'après 80, ce qu'on décide de faire avec la littérature jeunesse au Québec, c'est non plus de transmettre des valeurs ou une façon d'habiter le monde qu'on considérait comme essentielle, mais c'est d'envoyer aux jeunes une littérature qui leur ressemble. Donc, on fait ce changement-là de leur donner une littérature qui leur ressemble, c'est-à-dire qu'on va les mettre un peu dans le miroir, puis on va observer, ben c'est quoi les caractéristiques de la jeunesse moderne, et pour la première fois, on va écrire en pensant à qui ils sont, plutôt que d'écrire en pensant à ce qu'ils devraient être. Donc, c'est quand même un changement assez souhaitable. Par contre, quand on écrit en pensant à la jeunesse, ben c'est sûr qu'on écrit avec la vision que les adultes, nous, avant de la jeunesse. Et c'est une vision qui, généralement, va écraser les différences. Donc, qui va vraiment s'attarder à la majorité parce qu'on veut vendre le livre, parce qu'on veut que ce soit un succès et on veut que le livre circule le plus possible. Donc, il y a une certaine standardisation, si c'est pas de la trame narrative, au moins des personnages eux-mêmes qui vont devenir un peu des anti-héros, mais vides. C'est-à-dire qu'ils vont être l'adolescent atypique par excellence, mais qui peut être tout le monde, donc dans lequel tout le monde peut se projeter. Mais il n'y a pas vraiment de marqueur de différence là, super affirmé, parce que ce serait se couper là, de ce processus d'identification-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là, pour la littérature jeunesse sur ses caractéristiques, parce que la façon dont on construit les personnages principaux, hein, puis c'est une littérature qui est souvent écrite au jeu, aussi pour aller chercher l'intérêt des jeunes lecteurs, ben va nécessairement participer à former cette filiation-là, parce que justement, on essaie de créer ben un personnage qui pourrait être tout le monde. Donc, on va pas aller dans la spécificité nécessairement. Avant d'aller vraiment dans les exemples que je veux qu'on explore aujourd'hui, je voulais amener cette étude-là qu'ont fait deux chercheurs, donc Gomillon et Giuliano, sur l'influence des modèles gays, lesbiens, bisexuels, sur l'identité, surtout l'identité, là c'était une identité adulte, mais vraiment sur la formation de l'identité queer dans le fond. Et cette étude-là est intéressante parce qu'elle va observer justement comment, plutôt que de prendre l'environnement immédiat comme modèle, parce que l'environnement immédiat est homogène, c'est-à-dire souvent straight ou hétéro ou cis, les jeunes qui sont gays, lesbiens, bisexuels, mais ça va aussi pour toute la jeunesse queer, vont devoir se décentrer, vont devoir quitter leur environnement et donc vont se tourner vers les médias. Puis c'est pour ça que je me permets d'inclure des œuvres françaises aussi, parce qu'à mon sens, la mémoire queer, elle est un peu décentralisée, elle est un peu délocalisée, parce qu'elle se fait dans la rareté des modèles. Et donc, cette rareté-là fait qu'on va aller piger toujours plus loin, on va franchir des frontières, et puis on va un peu faire fi là, des langues d'appartenance ou des cultures d'appartenance. Donc, il y a ce processus-là qui se fait dans la création de l'identité gay, et puis où on va aller chercher à l'extérieur de notre quotidien, et puis on va le trouver souvent dans les médias, dans la littérature ou peu importe. Et avec ces personnes ou personnages-là avec lesquels on peut s'identifier, ben, il y a souvent des relations super intimes qui vont se créer, malgré que ce soit des gens qu'on pourra jamais rencontrer, voire qui n'existent pas. Donc, ça va créer des relations super fortes, super formatrices. Malgré que c'est ça, ce sont des modèles qui peuvent être super éloignés de nous au niveau géographique ou sur plein d'autres points, il va quand même avoir ce rapprochement-là qui va se faire à cause de la similitude, à cause du manque de dans le fond de modèles similaires. Une chose intéressante aussi que l'étude soulève, c'est que dans le rôle de ces influences-là ou de ces modèles-là, il y a une logique interprétative super forte. C'est-à-dire que ils vont donner l'exemple de Brian, qui est un participant de l'étude. Puis, il dit, moi, je m'identifie vraiment beaucoup aux X-Men. Je m'identifie aux X-Men parce que moi, je suis différent, eux, ils sont différents. Puis, comme je vois pas nécessairement de gens qui me ressemblent à 100% dans la culture, ben j'arrive à m'identifier, ou du moins à me reconnaître dans la différence des X-Men. Donc, on n'est pas avec les X-Men dans quelque chose qui soit ouvertement LGBTQ, mais l'étude va dire, bien que les personnages de la série X-Men ne soient pas ouvertement GLB, Brian s'identifie à eux en raison des parallèles de leurs expériences partagées d'exclusion et de divergence. Donc, cette mise à l'écart de la société, puis cette force que les personnages vont trouver dans l'exclusion, justement, devenait un espoir là, pour les personnes comme Brian. Donc, c'est vraiment avec ça en tête que je voulais regarder aussi les exemples de littérature jeunesse, surtout sachant que même si le vecteur principal de la littérature jeunesse dans les années 80 jusqu'à maintenant, c'est l'identification du jeune lecteur, les études qui sont allées faire là, des sondages auprès des jeunes lecteurs, tout ça, prouvent que ben, y a pas vraiment d'identification. Donc, c'est pas nécessairement ce qui se produit. Puis, c'est pas là où je veux aller. Donc, je veux pas aller voir l'identification des lecteurs au livre. Mais le livre lui-même va, en fait, les livres eux-mêmes que je vais présenter aujourd'hui vont eux mettre en scène des modèles d'identification, des logiques d'identification. Ces logiques-là vont suivre deux types. Donc, très simplement, là, une identification qui serait envieuse, donc une identification quand on voit un modèle qui ne ressemble pas, mais à qui on voudrait ressembler. Puis une identification par similitude ou similarité, où là, on se reconnaît dans l'autre personne. Donc, je vous donne l'exemple de La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker, d'Isabelle Gagnon, qui a été publiée en 2010 chez Remue Ménage. C'est l'histoire de Florence qui apprend que sa meilleure amie, Raphaël, revient s'installer à Montréal et puis qui va devoir composer avec les sentiments amoureux qui vont naître pour sa meilleure amie et donc le début de leur relation, etc. Mais ce qui va caractériser Florence d'emblée, c'est sa différence. En tant que personnage, Florence est pas très dynamique ou pas très tridimensionnelle, elle est quand même assez simple. Mais par contre, une chose qui va la rendre plus spécifique, c'est sa façon de s'identifier au modèle, justement. Donc, elle va dire, quand j'étais petite, il m'arrivait de rêver d'être un garçon pour pouvoir être galante avec les filles. Au fond, ce vieux rêve ne m'a jamais complètement quittée. De temps à autre, il ressort du placard et ça me trouble à chaque fois. Donc, il va avoir un passage par la masculinité qui va se faire chez Florence pour d'abord intégrer ses sentiments envers ses meilleures amies ou envers les filles en général. Elle va dire aussi, je ne crois pas que les autres filles rêvent d'être un garçon pour être plus proche de leur amie. Moi, j'ai déjà pensé ça. Être un garçon m'aurait simplifié la vie. Donc, cette masculinité qui est une masculinité désirée ou envieuse, elle est surtout présente parce qu'elle représente une liberté. Donc, une liberté d'agir dans ce qui n'est pas la féminité typique. Elle va ensuite venir s'intégrer, là, ou venir se construire autour d'une figure spécifique qui est Clyde Barrow. Donc, je me suis amusée là, à sortir les références dans l'œuvre de Bonnie Parker. Elles sont assez variées, comme vous allez voir, puis elles sont pas toutes liées avec l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la protagoniste. mais celles qu'elles sont vont être celles-ci, donc. Ce qui est vraiment des... les modèles identitaires vont être Bonnie and Clyde, vont être l'attentat à Tel Aviv où une jeune fille lesbienne a été tuée, donc c'est quelque chose d'assez triste, et The L Word. Donc, elle va vraiment s'identifier à Clyde Barrow. Florence a une obsession pour les vieux films, là, donc c'est Clyde Barrow, la chanson aussi de Gainsbourg va revenir aussi, mais elle va dire tout à l'heure, l'espace d'une minute, j'aurais aimé être à la place de Clyde Barrow pour embrasser Bonnie Parker, elle est tellement belle, rien à voir avec moi. Donc elle se met à l'écart de la féminité de Bonnie Parker, puis elle veut essayer d'embrasser la masculinité de Clyde Barrow, avant de comprendre dans le fond que son identité peut exister en d'autres termes. Puis ça, ça va arriver plus tard avec sa relation avec Raphaël, sa meilleure amie. Mais son besoin de modèle va être vraiment un leitmotiv de toute l'œuvre. Elle va dire plus tard, donc par rapport à The L Word, elle va dire « Avec Raphaël, on n'arrête pas de chercher des sites ou des articles sur Internet. Si ça continue, nous allons devenir deux expertes de l'homosexualité. Son père nous a offert la saison 1 de la série américaine The L Word. Nous avons regardé tous les épisodes en 2 jours. C'est tellement rare de voir des filles s'embrasser dans les films ou à la télé. » On dirait que c'est plus fort que moi. J'avais envie de voir d'autres filles comme moi, comme nous. Peut-être que c'est pour me rassurer. Donc là, on voit le deuxième type d'identification, donc par similitude, qui vient embarquer, qui vient aussi légitimer la relation entre Florence puis Raphaël, mais aussi juste l'identité de Florence elle-même. C'est étonnamment un des seuls livres jeunesse où on traite de femmes qui tombent amoureuses d'une femme, où on va utiliser le mot « lesbienne ». Dans la littérature jeunesse québécoise qui met en scène des relations entre deux femmes, on va utiliser plein d'autres mots, mais on va toujours éviter le mot lesbienne qui est vu comme une insulte. Puis, quand on va le mettre de l'avant, on va dire « j'aime pas ce mot-là, il me correspond pas, je veux pas l'utiliser ». Donc, il y a vraiment comme un refus de la posture identitaire. Mon hypothèse, c'est parce que ça met en distance les jeunes lecteurs qui s'identifieraient pas comme ça aussi, là. Donc, on veut rester dans une logique de plaire au plus grand nombre. Donc, on est vraiment dans des postures de découverte. Et puis là, l'identité fixe qui vient avec le vocabulaire identitaire, c'est comme une couche trop loin, là, pour ce qu'on est en train de faire. Mais, donc, il y a vraiment, là, dans ce réseau de modèles-là qui se tisse, quelque chose d'intéressant parce que, un, il est international, et puis, deux, il va passer par des figures quand même atypiques, là, donc des criminels, d'un côté, et puis The L Word, de l'autre côté, donc qui va venir un peu justifier la façon de Florence d'être au monde. Après, je me permets là, un petit détour vers la France parce que ce type de relations intergénérationnelles-là, va revenir dans quelques livres. Puis je trouve ça intéressant de voir quel modèle on utilise, parce que ça veut dire, ben qu'est-ce qu'on pense de justement cette filiation-là? C'est qui la génération avant nous? Donc ça parle de ce qu'on pense de l'homosexualité, ce qu'on pense de la jeunesse et plein d'autres choses. Donc dans « Étrangère au paradis » de Gudule, qui est publié en 2003, c'est un livre qui, en passant, va véhiculer son lot de stéréotypes, là, donc c'est pas nécessairement un livre que je recommande, mais ce qui va venir légitimer la relation, ou en fait l'attirance entre les deux femmes, c'est la relation entre Colette et Polaire, donc, qui va vraiment ouvrir une porte là, pour la narratrice, qui est une personne là, qui est vraiment en recherche d'identité, encore une fois, là, parce qu'on met jamais le personnage qui est certain de son identité en position de protagoniste. Là, c'est toujours l'intérêt amoureux qui va être sûr de son identité. Le protagoniste va être en recherche d'identité. Mais l'exemple de Colette, donc, va vraiment venir ouvrir la porte à la narratrice pour qu'elle commence à comprendre ces sentiments-là, qu'elle a l'attirance pour une autre femme. Et puis là, elle va se mettre dans une espèce d'obsession, elle va lire tout ce qu'elle peut là, sur Colette et puis sur Polaire, surtout dans leur relation. Et c'est comme ça qu'elle va accepter que dans le fond, c'est pas si étrange les sentiments qu'elle a là, pour... là, c'est l'éditrice de sa mère, là, donc il y a une bonne différence d'âge, puis aussi une position une position un peu autoritaire, là, donc c'est là où peut-être le bas blesse. Mais c'est vraiment ce modèle-là qui est la chose la plus intéressante du livre pour moi, c'est qu'on met en scène la légitimité de cette nouvelle génération-là qui vient d'une génération d'avant et puis qui va vraiment ouvrir la porte. Hein. Puis c'est Advanwich qui disait, tu sais, le problème avec l'affirmation de l'identité lesbienne, c'est qu'on détruit toujours les archives. Puis comment est-ce qu'on bâtit si on n'a plus d'archives? Ben, je pense que ces modèles-là qu'on intègre, c'est un peu la tentative de laisser des traces puis de faire justement des archives de l'identité queer à travers là, d'ouvrir ça à la jeunesse aussi, qui sont, c'est pas des modèles qu'ils connaissent déjà probablement, mais c'est des modèles qui vont pouvoir aller investir et puis qui vont offrir là, un certain lien à des connaissances là, qui sont pas nécessairement de leur domaine. Chose qui va se passer aussi chez dans Cathy Bernheim, Côte d'Azur, qui est publié en 89 cette fois-ci, où c'est pas un modèle queer qu'on va mettre de l'avant, quoique, bon, peut-être, on sait pas, mais c'est la navigatrice Virginie Herriot qui va être le modèle identitaire pour la protagoniste là, de Côte d'Azur. Et puis, c'est parce que, justement, c'est un modèle féminin fort, indépendant, qui a été au-delà des rôles qu'on avait attribués pour les femmes à l'époque, que ce modèle-là va devenir si important. On va avoir dans ce roman-là aussi le passage par la masculinité, là, donc l'amoureuse ou la potentielle amoureuse, la narratrice, va dire à la narratrice « Tu sais ce qui est bizarre, des fois je voudrais que tu sois un garçon. » Donc encore une fois, les sentiments amoureux entre les deux femmes vont passer par la masculinité. Mais par rapport à Virginie Herriot, donc on a la narratrice qui dit « Je pose la main sur la surface froide et rugueuse de la statue de Virginie Herriot. À elle, je sais parler. Je lui dis que je voudrais bien partir sur son bateau, dont j'aperçois la voile en pierre aussi. Tu veux me la prêter? Je prendrai la mer un matin, j'irai en ligne droite jusqu'à l'autre bord de la planète. Pour que personne s'inquiète, à mon arrivée, j'enverrai des cartes postales jusqu'au bout du monde. Je suis là, tout va bien, je vous aime, fichez-moi la paix. » Donc, c'est vraiment vu comme un modèle d'émancipation. Et puis, c'est grâce à Virginie Herriot que, dans le fond, la protagoniste va acquérir le courage, dans le fond, d'aller avec de déclarer ses sentiments pour sa future copine. Puis, le dernier exemple que je voulais étudier. Donc là, on n'est plus dans une romance lesbienne, mais on est dans l'identité trans. Donc, qui vient juste de sortir, qui est en ce moment joué à la Maison Théâtre, d'ailleurs. Donc, la pièce d'Élie Marchand, Sœurs Sirènes, où on a ces deux protagonistes, ces deux personnages, qui vont être liés par leur marginalité. Donc, on a Agnès, qui a été amputée des deux jambes, puis qui essaie de réapprendre à nager. Puis on a Charlie, qui est une championne, dans le fond, de natation, mais qui est encore vue comme un garçon par tout le monde, donc elle n'a pas encore fait son coming out trans. Et puis, leur relation aux deux va leur permettre de pousser les limites, de s'accomplir, de faire. Donc, pour Charlie, c'est de mettre un maillot de bain de fille rouge pour les Jeux panaméricains. Puis pour Agnès, c'est juste de retourner dans l'eau après son accident. Donc, leur collaboration va leur permettre d'aller au-delà de leur but, justement, puis de franchir les limites qu'elles s'étaient imposées. Mais elles vont pas juste le faire entre elles vont le faire là aussi grâce à deux modèles de femmes qui ont franchi les limites, c'est-à-dire Annette Kellerman et puis Sylvia Earle. Donc la Annette Kellerman qui a un peu inventé la natation synchronisée, si vous voulez, et puis Sylvia Earle qui a été la première femme à marcher au fond de l'océan. Donc c'est vraiment des femmes qui ont poussé les limites et puis grâce à ces relations-là intergénérationnelles et internationales, encore une fois, les deux protagonistes vont pouvoir vraiment s'accomplir puis s'affirmer dans leur identité. Et c'est là que Charlie va dire, donc on a Agnès qui fait la narration de son plongeon qui dit Charlie est le premier, et puis là Charlie qui dit la première, puis c'est là où on voit l'affirmation identitaire. C'est vraiment un beau moment là, au théâtre, je l'ai vu récemment. Mais donc, c'est ça le parcours que je voulais faire avec vous. C'était vraiment de regarder ces modèles-là, comment ils sont intégrés dans certaines œuvres. Puis, après ça, on pourra discuter là, de ce qu'elles veulent dire. Merci.